Les députés ont débattu avec passion depuis 2 jours sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Mon invité ce matin nous apporte un regard juridique sur ces dispositifs. Bonjour Maître France Charhuillet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate expert en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Vous êtes aussi présidente de l'association DataRing et vous enseignez à l'université de Toulouse-Capitole, Toulousain, et à la Toulouse Business School, TBS. Maître France Charhuillet, vous avez saisi le Conseil d'État l'été dernier à propos du décret du 19 juillet mettant en place un pass sanitaire élargi. Qu'est-ce qui a motivé un tel recours?
Bon, tout simplement notre rôle d'avocat et de juriste. Notre rôle, nous, c'est de non pas d'épiloguer sur l'innocuité ou les politiques et les débats des chroniqueurs sur les radios diverses. Nous, notre fonction, c'est de nous intéresser à la proportionnalité, c'est-à-dire quelles sont les restrictions qui sont apportées aux libertés publiques individuelles dans une situation d'urgence, parce qu'il va de soi que les situations d'urgence requièrent des mesures fortes parfois et des restrictions à nos libertés publiques individuelles, mais on doit veiller à ce que les dispositifs mis en place ne créent pas de nouvelles vulnérabilités et érodent le moins possible nos libertés, ni que l'on ne sombre dans l'absurde. Donc en clair, nous sommes une association au niveau de DataRing de praticiens du droit, on s'inscrit dans le réel. Et notre démarche, eh bien, c'est de rappeler que notre juge, eh bien, il a une place naturelle pour tracer une ligne claire entre le permis et l'interdit. Et puis de voir si la politique sanitaire et vaccinale qui est mise en place, qui est difficile, c'est pas le sujet. Personne ne dira que la situation n'est pas complexe parce qu'on sait tous qu'on va vivre avec des crises. Mais en revanche, on doit s'interroger sur la proportionnalité entre les moyens et les formes. Nous, on ne parle que dans notre discipline. C'est une matière et c'est une tournure d'esprit. Le problème, ce n'est pas de savoir l'innocuité à ce stade des vaccins ou pas. Ma discipline, c'est le droit. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est la conciliation entre la protection de l'ordre public et les droits fondamentaux des individus. Et de vérifier que cette conciliation, elle est proportionnelle, c'est-à-dire qu'elle est équilibrée ou pas. Et aujourd'hui, la difficulté, parce qu'on a tout entendu, c'est que les gouvernements en Europe, quels qu'ils soient, parce que c'est pas simple, au lieu d'affirmer clairement peut-être une stratégie et des objectifs, eh bien on se laisse enfermer dans la question des moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu des heures et des heures et des heures, hein, des ministres, des députés, des sénateurs, des fonctionnaires, où on a épilogué pour savoir si on avait le droit de manger dans le train ou pas. C'est-à-dire qu'on a passé énormément de temps à savoir si la loi avait organisé le repas des individus. On s'intéresse à des micro-détails sans portée. Moi, j'ai envie de vous dire, parce que on est un cabinet d'avocats, on s'intéresse aussi au monde de l'entreprise. Dans une entreprise, on ne peut pas se permettre de passer autant de temps sur des micro-détails. Je rappelle quand même que c'est l'équivalent, on a 577 députés, 348 sénateurs et autant de fonctionnaires qui ont passé énormément de temps pour savoir si on avait le droit de manger debout, on mérite peut-être un peu mieux. Je rappelle que c'est l'équivalent peut-être d'équivalent temps plein dans un hôpital. Et qu'on se pose peut-être pas les vraies questions.
Et justement, quelles questions juridiques soulèvent ce pass sanitaire qui devient maintenant pass vaccinal? Quels ont été vraiment les points d'achoppement que vous avez soulevés?
Alors, les points d'achoppement sur le recours initial, nous on s'est interrogé sur l'encadrement. Et je tiens quand même à rappeler quelques principes où on passe le curseur. Un régime de liberté totale, c'est l'anarchie. Un régime d'autorisation permanent, c'est pas possible. Donc c'est difficile le compromis. Donc on va s'intéresser, notre démarche, c'est où est-ce qu'on va placer le curseur?
C'est ce que vous appelez la proportionnalité.
C'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Donc aujourd'hui, ce que l'on constate, et les aspects du pass sanitaire qui posent problème, et essentiellement, parce qu'on ne va pas reprendre l'intégralité du recours, qui est toujours pendant, on aura les solutions dans 3-4 mois, c'est l'extension des cas d'usage du pass sanitaire à toutes nos activités quotidiennes. Et maintenant, la façon de manger dans les transports en commun, ou de prendre le café assis ou debout. Donc, ça met peut-être à mal la proportionnalité d'un dispositif, comme le pass sanitaire. On n'est pas contre le pass sanitaire. On souhaite qu'il y ait un encadrement C'est-à-dire qu'on respecte le principe de proportionnalité. C'est-à-dire qu'on glisse dans une logique de liberté, c'est le régime normal, hein, la vie normale, la vie réelle, c'est pas de tous les matins de se réveiller, de passer des QR codes et de justifier de son état de santé.
Oui, c'est
C'est pas
vrai.
ça la vie réelle. Ça fait 2 ans qu'on vit dans un tunnel qui est complètement anxiogène.
Oui, on peut
Et donc,
l'oublier
ce
d'ailleurs.
glissement à une logique de déclaration préalable et systématique qui aboutit à une surveillance continue et permanente, dans des circonstances exceptionnelles, c'est tolérable. Mais les juristes que nous sommes, les avocats que nous sommes, eh bien, s'intéressent dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, eh bien, à un contrôle du juge qui va nous dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est proportionnel ou pas.
Donc, vous voulez
C'est
dire
aussi
qu'il y a eu.
simple que ça. Et ce n'est pas un outrage que de saisir le juge. Il y a beaucoup de gens qui ont été très surpris. Non. C'est naturel dans une démocratie. On a la chance, nous, dans nos pays, de pouvoir le faire. Et le gouvernement, parfois, quand il saisit et quand il va saisir le Conseil constitutionnel suite au texte qui a été qui, sur les compromis qui ont été décidés dans la nuit, après moult et moult, on va dire,
Débat,
épisodes un petit
oui.
peu cacophoniques et débats avec la stratégie électorale qui est destinée à aviver les tensions. On sait tous comment ça marche. Pour un petit peu désamorcer les extrêmes, essayer de ramener tout le monde au centre et mettre montrer autre chose. Ces stratégies, ce sont des stratégies électorales, mais il faut peut-être nous, en tant qu'avocats, s'intéresser à autre chose et c'est heureux.
Oui, sortir
Nous,
de ce débat.
on s'intéresse à la pédagogie en termes de politique sanitaire et c'est peut-être essentiel pour la compréhension et la lisibilité des dispositifs qui sont très intrusifs. Et ça participe d'une gouvernance apaisée des territoires et d'une confiance partagé. La confiance, elle ne se décrète pas, elle se prouve. Et le Conseil d'État et les juges, que ce soit le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, ont une place naturelle pour nous dire bah, qu'est-ce qui va être possible et ce qui ne va pas l'être. Ni plus ni moins.
Donc vous soulevez vraiment
Voilà, voilà.
le caractère exceptionnel en fait de ces mesures qui doivent être vraiment encadrées. Vous, si
Tout à fait.
je vous ai bien suivi, vous avez suggéré aussi ce problème de la violation de la vie privée et de la liberté d'aller venir, puisque à chaque fois il faut on est comme vous dites suivi.
Oui.
Vous avez parlé de ce glissement
Ben ça
d'une
s'appelle l'état de droit,
voilà,
c'est-à-dire
c'est
qu'on
ça, de
encadre un
l'état de droit.
dispositif,
C'est ça.
c'est l'état de droit, c'est qu'on appelle un meilleur encadrement des dispositifs applicables, qu'on arrête d'être dans le micro-détail, manger assis, debout, couché, etc.,
Ouais.
savoir dans le train comment ça va se passer, et on rappelle au respect des règles existantes, ce qui, pour mémoire, pèse sur les organismes publics et privés et dont l'État ne peut s'affranchir. Ça s'appelle l'état de droit.
Alors,
Voilà.
il y a
Et
deux
nous,
autres
la
questions.
question.
Pardon, il
Il
y a
y a...
deux autres questions qui se posent. C'est la question de la protection des données, puisque vous êtes quand même spécialisé
Tout
aussi
à
dans ce
fait.
domaine. Est-ce que vous
Tout
pouvez
à
nous en
fait.
dire quelques mots?
Alors, sur la protection des données, on va s'intéresser évidemment eh bien, au traitement de nos données de santé, c'est-à-dire que le solutionnisme technologique aujourd'hui, ce que j'ai dit, on s'est focalisé sur les moyens et on ne regarde plus les fonctions des outils qu'on met en place. La CNIL l'a rappelé, on aurait peut-être pu non pas céder à la précipitation, mais finalement, tout le monde a eu peur, tout le monde s'est précipité sur les outils technologiques, on s'est dit finalement, ça va être la solution à tout, mais un outil technologique, ce n'est pas la solution à la crise de l'hôpital. Un outil technologique, ce n'est pas la solution à la diminution des lits de réanimation et à la déprogrammation des opérations. On va avoir une addition qui va être assez salée. La vraie difficulté, ce n'est pas d'être de plus en plus intrusif pour savoir finalement au niveau de mes données de santé si je suis immunodéprimée, parce que première, deuxième, troisième injection, mais en fait, finalement, tout cela, c'est que l'État nous doit une protection sur nos données de santé et on a le droit de savoir où vont nos données de santé, qu'est-ce qu'on va en faire in fine. Mais le Conseil d'État est là pour nous expliquer finalement ce qui est acceptable ou pas en matière de circonstances exceptionnelles, si tant est que depuis 2 ans, puisque ça a évolué, on soit toujours dans des circonstances qualifiées d'exceptionnelles. Est-ce qu'on est
Oui, tout
toujours en
à fait.
pandémie ou est-ce qu'on est dans une maladie endémique? Est-ce qu'on ne doit pas s'habituer à vivre au milieu des crises et des maladies à coronavirus à répétition?
Alors vous.
Peut-être qu'on doit apprendre de cette crise. Donc, sur le traitement des données de santé, nous, on saisit le Conseil d'État pour qu'ils nous disent, voilà, on peut peut-être faire un peu mieux. Ne pensez-vous pas qu'on peut faire un peu mieux que se poser des questions absurdes? Est-ce qu'on peut, pour rassurer les Français, et les citoyens pour les amener à comprendre les dispositifs mis en place, et bien les rassurer aussi sur les sécurités techniques qui sont mises en place sur le QR code. Je ne vais pas débattre là-dessus. Il y a des experts qui se sont posé les questions sur la sécurité informatique des QR codes, etc. On a toute la problématique des faux passes sanitaires, bah parce qu'évidemment, une solution technologique, quelle qu'elle soit, ce qu'un homme a fait, un autre homme peut le défaire. Et il y en a eu énormément en circulation, parce que tellement c'était simple à copier, parce qu'on s'est focalisé sur les moyens. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, une politique sanitaire. Il faut peut-être être beaucoup plus modeste,
Je voudrais
s'intéresser à la formation des médecins et à l'état de l'hôpital.
Je voudrais, Maître
Voilà.
François Charvillier, qu'on aborde aussi la question du pass sanitaire qui a été proposé aux travailleurs des entreprises. C'est un débat
Tout à fait.
qui a été
Tout à fait.
mis à l'ordre du jour, notamment à travers les discussions des partenaires sociaux. Un débat qui a été abandonné parce que le ministre de la Santé a bien vu qu'il y avait un manque de consensus. Et pour autant, ce sont quand même des députés de La République En Marche qui ont déposé six amendements, pardon, à l'Assemblée nationale ces derniers jours. Vous êtes intervenu, Maître François Charvillier, justement sur cette difficulté aussi de mettre en place et sur les questions que soulève le pass sanitaire en entreprise. Quels sont les écueils juridiques que vous voulez soulever?
Les écueils juridiques, je vais vous dire, c'est que la principale difficulté, puisque nous, on a énormément de PME, d'entreprises, d'où qu'elles viennent, avec ce soit avec des directions juridiques ou le petit dirigeant, qui finalement a beaucoup de difficultés dans la mise en place du pass sanitaire, parce qu'on en rajoute une couche, parce que tout simplement, il doit aussi s'assurer, on transfère quelque part la responsabilité de la politique sanitaire aux responsables de traitement que sont les employeurs, hein, qui vont se retrouver, eux, in fine, à gérer la crise sanitaire. On se retrouve aujourd'hui dans la difficulté suivante, c'est est-ce que je sais documenter mes registres? Est-ce que je suis en capacité d'expliquer à mes salariés ce que je fais de leurs données? Donc, il y a le fait qu'on doive monter en gamme également dans une numérisation, plateformisation de la société sur qui a accès à quoi dans mon entreprise, pourquoi et pendant combien de temps? Est-ce que ce passe sanitaire ne m'amène pas également finalement, on le sait, avoir connaissance
Oui, d'informations dont on n'aurait pas accès,
d'informations assez
auxquelles on n'aurait pas
confidentielles. Mais
accès.
l'employeur, il a connaissance d'informations confidentielles par nature. Il sait quand un salarié est malade ou pas. Le problème, c'est que ça crée des crispations aussi dans les entreprises. Voilà.
Et est-ce que
Donc,
ça lui donnerait aussi des pouvoirs de
on a eu
police?
des attitudes, on a eu des incompréhensions où il y a dans les entreprises, il y en a qui se sont dit, bon, on va mettre en place du contrôle des températures permanent, etc. Donc, on a dû rappeler les fondamentaux. On a rappelé qu'il y avait un contrôle du juge, on a rappelé qu'on ne pouvait pas, que l'employeur n'avait pas à se substituer non plus à l'État dans la gestion de la politique sanitaire, ni en rajouter, parce qu'il y a eu cette tentation-là. Il y a eu la volonté aussi de rassurer certains salariés qui ne voulaient pas rentrer dans les bureaux de ceux qui n'étaient pas vaccinés, etc. On a eu des crispations, des incompréhensions, on a attisé des tensions, là où on n'avait peut-être pas à le faire. Et puis aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pas tant la question il y a la question du pass sanitaire, mais finalement ça se passe bien, il y a des passes simplifiées, il y a des dispositifs qui ont été mis en place parce que les employeurs, ont été résilients, hein, s'ils sont attelés. On a mis en place des dispositifs, des cahiers. Vous regardez, on a un écosystème qui donne une lisibilité gratuitement aux employeurs pour essayer de s'en sortir sur la mise en place de ces passes sanitaires. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive, nous, à être des acteurs et les entreprises, des acteurs et des opérateurs de confiance là-dessus, sur la gestion des passes sanitaires. Et la vraie question qui va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'employeur peut imposer, non pas le pass sanitaire, puisqu'on a le respect de la loi, mais peut imposer le télétravail aux salariés. C'est
Ça,
peut-être
c'est une
ça
autre
qui se
question.
pose
Ça, c'est une autre
aujourd'hui. Ça,
question.
c'est une
Oui,
question, mais ça
oui,
va être ça.
oui,
Surtout
oui.
ça aujourd'hui,
Oui.
ce pass sanitaire, on y est. On y
Voilà,
est sur
on
les
y est.
QR codes dans les circonstances exceptionnelles. Il ne s'agit pas de le remettre en question.
Oui.
On n'a pas le choix
Mais.
dans certains.
Merci beaucoup, Maître François Charvillier. On va pas se lancer sur le débat du télétravail parce qu'effectivement,
Non.
c'est une autre question. Mais merci pour vos précisions sur ce dispositif de passe vaccinal, passe sanitaire. Vous étiez notre invité ce matin de Radio Présence et puis j'espère que vous nous tiendrez au courant quand même de la décision du Conseil d'État suite à votre recours.
Mais avec un grand plaisir.
Merci.
Merci beaucoup.